Je vous propose un petit peu de détente quand même, hein, parce que quand même. Alors j'ai choisi la phrase du mois, attribuée à à Sandrine Rousseau. Voilà. Je ne sais plus si c'est Sardine Rousseau ou si c'est Sandrine Rousseau, où elle a dit « Il faut changer la mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. » Voilà, encore une sortie à l'emporte-pièce de notre Khmer verte préférée. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de réactions des politiques, certaines réactions en soutien bien sûr à Sandrine Rousseau, et puis d'autres plus affligées par la nouvelle sortie de la dame. Alors je vous propose, tout seigneur, tout honneur, une sortie à la réponse de Madame Autain. Vous connaissez.
Vous savez par exemple que les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes.
Donc manger de la viande, il y a bien un rapport. C'est un signe de virilité.
En tout cas, il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Pareil, le véganisme ou les personnes qui décident de devenir végétariens sont majoritairement des femmes.
Et ben voilà, Philippe, t'es une femme donc. J'ai appris ça en écoutant donc Madame Autain. Voilà. Donc je me suis dit, moi je connais plein de mecs qui sont pas véganes, mais qui ne mangent pas de viande.
Donc il va falloir, je vais faire mon coming out.
Ben oui,
je pense que oui. Déjà tout à l'heure, on va manger un petit bout de viande. Là, ça m'incite à favoriser l'usage de la viande, si j'ose dire.
Ils sont cinglés.
Non, mais attends.
Ils sont cinglés.
Est-ce qu'on va parler du sexe des escalopes? Non, mais attends, mais où ça va là?
Une réaction.
Alors, sur Rousseau, j'ai jamais été.
Est-ce que c'est toi qui fais le barbecue?
Oui, ma femme est végétarienne. Des aubergines. Mais sur Rousseau, moi, j'ai jamais été fan. Par contre, Autain, je l'aimais bien. Je me demande ce qu'elle est allée faire dans cette affaire-là.
Là, elle s'est loupée, là. Ouais. Ouais. Ouais.
Une autre réaction qui m'a fait sourire, celle de sur Roussel. Écoutez.
On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip, d'accord?
Ben voilà, au moins il nous fait rire à côté.
Mais lui, il assume au moins, voilà.
Il y en a un qui était très remonté, c'est Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, donc vous pouvez imaginer.
Je ne suis même plus agacé par Sandrine Rousseau, elle dit tellement de bêtises que qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je fais des débats avec elle, elle est anti-chasse, elle est anti-homme, elle est anti-tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute avec des gens qui cherchent tous les moyens pour expliquer que l'autre est nul?
c'est compliqué. C'est compliqué.
Non, mais très rapidement, il faudrait suggérer au patron des éditions du Fournel de prendre tous les petits mots de Madame. Comment tu dis?
Ça dépend. Madame Autain, Madame Roussel.
Madame Roussel.
Non, pas Madame Roussel, pardon. Excusez-moi.
Madame Rousseau.
Madame Rousseau.
Oui, je préfère l'un et je dédaigne l'autre. Non, mais il faudrait que les éditions du Fournel, au fond, ça fait un peu de publicité, tant mieux, envisagent de faire un petit livret sur toutes les bourdes. Laisser de la place parce qu'elle va en refaire des bourdes. Hein. Voilà. Ah là, oui.
On attend quelques mois.
Et on termine avec Michel Onfray. Voilà.
C'est une réalité? On associe la virilité à la chasse, à la viande rouge?
C'est un délire, cette femme. C'est un vrai délire. Je me demande comment on peut créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise, quoi. C'est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout, il y a de la phallocratie partout, que en permanence, dès que vous faites quelque chose, si vous avez des copains et que vous faites un barbecue, vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur.
Elle n'enseigne plus.
Ouais, d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle est faite, qu'elle n'est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant, ça c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans, et puis qu'on s'oppose à papa-maman, et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc. Ça va bien, quand on a 3 neurones, mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant, et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs.
C'est une réalité.
Mais ce qui est bien, c'est que ces cinglés là, non, Rousseau, Royal et compagnie, permettent à des gens comme Onfray, qui des fois sont quand même un peu
limite,
des gens comme Apathy, ils sont aussi un peu limite, alors je parle pas de François Hollande, mais ça permet de réveiller en eux quand même des bases, quoi.
Oui,
c'est un peu rassurant, enfin, je sais pas si...
Heureusement. On avait aussi ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, la pauvre, la première ministre finlandaise, je ne sais pas si vous avez suivi, qui s'est retrouvée au cœur d'une polémique après que des vidéos la montrant s'amusant et dansant avec des amis avaient fuité sur Internet. Alors bon, il y a de nombreuses personnalités qui sont montées au créneau pour la soutenir, à commencer par Hillary Clinton en personne, qui était montée au créneau en déclarant « Continue de danser, Sana ». Sana Marine, il faut savoir, donc elle a 36 ans, hein, c'est la plus jeune première ministre sur la planète. Et du coup, avec cette histoire, elle a dû se soumettre à un dépistage de drogue qui s'est révélé négatif. Alors, il y a une autre vidéo qui va fuiter, celle où on la voit en boîte de nuit danser avec un autre homme que son mari, vous imaginez.
Aïe. Oh ben dis donc, alors...
On lui a reproché cette légèreté alors que, évidemment, la situation au pays est tendue. Toujours le mélange des genres, hein, entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, j'ai cherché des réactions là-dessus. J'en ai trouvé une intéressante. De Sandrine Rousseau, justement.
Encore elle.
Je me suis dit, bon,
s'accroche.
Elle est venue donner un coup de main à la première ministre finlandaise. Oui, mais écoutez bien.
Juste pour dire quand même que, en fait, le but de tout ça, ça poursuit un but, c'est d'affaiblir et de déstabiliser les femmes pour qu'elles soient en position d'infériorité. Bravo et gloire à Sanna Marin et vraiment très longue vie à elle. Et nous sommes plusieurs, nous sommes nombreuses dans le monde à vouloir perturber les ordres politiques. Voilà.
Alors, on cherche depuis toujours à déstabiliser donc les femmes, visiblement, mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche à déstabiliser, c'est plutôt les politiques, qu'ils soient hommes ou femmes. Ouais. C'est quand même terrible d'avoir toujours cette pensée qui ramène exclusivement à la femme.
Bah, on ferait mieux d'embêter un peu Mme Le Pen quand elle parle de l'Ukraine comme quelque chose au guin. Que ce sont maintenant les Français qui en sont victimes. C'est ces gens-là qu'on devrait quand même un peu mettre un peu en valeur. Au lieu de l'autre là, qui est en train de danser en boîte de nuit, on s'en fout.
Mais évidemment. Mais
s'il y a une femme dont on devrait parler aujourd'hui, c'est quand même bien d'elle.
Ben hein, oui.
qui déballe des tissus de...
mensonges.
Mensonges.
On peut dire.
Et de manière tellement. Avec une assurance incroyable.
Mais on avait eu ça en France avec Christophe Castaner, vous vous souvenez pas? Il avait été surpris en boîte de nuit.
Ah oui.
Mais oui. Et ça avait fait tout un pataquès. Mais
y en a
Christophe
vont...
Castaner n'est pas une femme.
Non, mais il y en a d'autres qui vont en Roumanie boire de l'eau des Carpates.
N'est-ce pas, Ah oui. Vous avez cette petite anecdote à nous raconter sur l'eau des Carpates?
Alors, l'eau des Carpates, c'est une source.
On est dans la période détente. On est dans la période détente, donc vous pouvez vous lâcher.
Ouais, alors, l'eau des Carpates, c'est une source qu'il y a dans les Carpates.
Et ah oui,
c'est une eau
bien.
Qui doit sortir à 65 degrés.
De température ou de...
D'alcool.
Ah, d'alcool.
Et quand on la sert à l'apéritif... Pendant le repas et au Dijon,
c'est compliqué.
Ça fait mal, ouais, c'est compliqué après. La fuite peut être compliquée.
C'est bien cette intégration dans les pays que vous visitez, c'est très bien.
Elle est servie au pichet en plus.
Un pourcentage qui m'est apparu assez étonnant. C'est une étude qui évalue à 43% la part de Français climato-sceptiques. Pratiquement un Français sur deux serait climato-sceptique. Est-ce que ça vous interpelle quelque part?
Moi, il y a un truc qui m'interpelle. Depuis tout à l'heure, quand on parle de nos hommes et de nos femmes politiques, quand on parle de ça, je pense que Trump a lancé une mode et qu'on ne s'en rend pas compte à quel point elle est chez nous. Et que depuis que Trump a été président des États-Unis,
il a laissé des traces.
On peut tout se permettre en étant homme politique ou autre, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Avant, un homme politique qui était inculte ou qui disait une connerie, il était râpé. Alors que maintenant, il monte au créneau, il continue, il confirme sa connerie pour se relever encore plus. Et il est encore plus invité sur les plateaux de télé, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien, peut-être ténu, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre l'élection de Trump, les conneries qu'il a pu dire et le succès qu'il a eu, et nos hommes et nos femmes politiques aussi, et sûrement dans d'autres pays aussi.
C'est un constat terrible que tu fais là. C'est un constat terrible.
Non, par rapport à Trump, oui.
mais surtout par rapport au niveau des personnalités et des femmes politiques.
Avant, il y a 10 ans, 15 ans, un homme politique ne disait pas une connerie, il ne s'aventurait pas sur des terrains qu'il ne maîtrisait pas. Maintenant, ils s'aventurent sur les terrains qu'ils ne maîtrisent pas, ils disent des conneries, on les reprend, ils perdurent dans leurs conneries.
Et ça les rend un petit peu plus glorieux, ça leur donne une médaille. En plus, ça me fait étrangement penser, c'est un petit peu différent, mais hier soir, j'ai assisté à la télé sur la 6, la 5, la 5, à une charge de Madame Aurélie Filippetti. C'est une ancienne ministre de la Culture qui a été marié ou qui a eu comme compagnon, ça on s'en contrefou, monsieur Thomas Piketty, dont on fait l'éloge, surtout dans un certain niveau. Il s'avère que ce monsieur a eu une plainte contre lui il y a une quinzaine d'années, madame Aurélie Filippetti, future ministre, mais qui était députée, est allée dans un commissariat de police en disant « Ce monsieur, je suis député, et ce monsieur Piketty, qui est mon compagnon, me tabasse à longueur de journée. » Monsieur Piketty a eu la bonne idée, alors il a été condamné une première fois, puis cette année il a fait une connerie, vraiment on ne peut pas dire autrement, il a rechargé et tout, et il a été condamné une deuxième fois, ce qui lui permet à cette dame de pouvoir dire ben maintenant j'y vais franco, voilà, il a été condamné définitivement comme tabasseur de... voilà. N'empêche que j'ai noté au passage qu'elle dit moi depuis 10 ans ma vie s'est totalement arrêtée, personne ne m'a invité sur les plateaux sauf hier soir, mais l'autre, je dis l'autre parce que c'est assez méprisant, depuis 10 ans il est accepté, auréolé, on lui remet des médailles sans arrêt et il vit très très bien et tout. C'est quand même impensable des choses comme ça. Et ça n'arrivait pas avant, en France en tout cas. Ouais. Et ça ressemble à Trump qui a dit des milliers et des milliers de mensonges, ils sont répertoriés. Là c'est un grand livre pour les éditions de Fournel. J'en fais le maximum pour faire de la pub. Donc, non, mais c'est quand même aberrant, quoi. Voilà.
C'est pour ça que j'en venais tout à l'heure à regretter François Hollande ou Nicolas Sarkozy.
Ouais.
Qui était quand même, c'était quand même des gens qui n'étaient pas là-dessus sur le déballer de n'importe quoi, comme tu disais, façon Trump, ou je dirais même Boris Johnson, qui était un peu dans le même style.
Ouais, mais pendant qu'on parle de, qu'on fait le buzz sur ces choses-là, etc., on se soustrait aux vrais problèmes politique de notre pays ou de l'Europe ou du monde.
Un autre fait divers qui m'a marqué, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant lui il a pas eu de chance, c'est un peu la faute à pas de chance. 6 mois après avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine, c'est Ravil Maganov, je sais pas si vous vous souvenez de ce Ravil Maganov, qui est le patron de la deuxième société pétrolière de Russie. Il a eu le malheur de critiquer l'invasion donc des Russes en Ukraine. Il est mort après avoir chuté de la fenêtre de sa chambre d'hôpital.
Voilà. Oui, c'est très étrange parce qu'il y en a eu une quinzaine, hein. Il n'est pas tout seul.
Il y en a qui est tombé dans l'escalier aussi récemment. Oui.
Et alors ça m'a rappelé ce passage, on est dans la détente un petit peu quand même sur des sujets graves, des inconnus, écoutez.
Il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide.
Excellent, mais non, revenez.
Vous avez dit, c'était un petit peu aussi... On peut rigoler quelquefois.
Ah ouais. Heureusement d'ailleurs.
C'est le Vieux-Port de Moscou.
Bon, et dites, il y a quand même un événement qui s'est passé, la disparition de la reine.
Ah oui, c'est vrai.
Ah bah oui.
Il y a
eu la polémique sur les drapeaux en berne. Vous avez vu, il y a certains élus qui ont refusé de mettre le drapeau en berne sur leur commune, arguant que nous ne sommes pas une monarchie. On s'est battu pour en sortir, que si on met le drapeau en berne pour la reine du Royaume-Uni, il va falloir le mettre en berne à chaque décès d'un chef d'État. Par exemple, pour Trump, ah, il est pas mort. Il va falloir le mettre en berne donc à chaque décès. Alors une question, est-ce qu'ils ont conscience que là vraiment, enfin moi je sais pas, de mon côté j'ai vu que c'était quand même une page d'histoire exceptionnelle qu'on était en train de tourner, en train de vivre et qu'on n'est pas là de revivre mine de rien.
Oui, oui,
là c'est quand même un truc de fou quoi.
Moi qui suis pas royaliste.
Mais moi non plus.
J'aurais mis le drapeau en berne si j'aurais été.
Franchement c'est...
Moi, je suis pas royaliste, mais quand Ségolène Royal dit des conneries, j'ai vraiment envie de me mettre en berne.
Non, mais il faut pas oublier que l'histoire de France s'est faite sur sur une longue monarchie. La France et l'Angleterre, bon, ce sont quand même les meilleurs ennemis, il faut le savoir. On est très liés avec cette île, grâce au tunnel, le tunnel aussi, oui. Puis ils nous ont bien aidés en 40, on en parlait tout à l'heure. Et surtout, ils nous ont montré la voie, ils auraient pu faire comme Pétain et vichiste, et lâcher le morceau, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Michel Apathy. Je vous ai mis un petit coup de Mélenchon, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la disparition d'Elisabeth II? Ben ceci.
C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours.
Voilà. Ça, c'était l'hommage.
C'est fin.
C'est
Jean-Luc Mélenchon.
C'est bien tombé parce que dans la semaine qui a suivi, il a eu d'autres emmerdes. Hein,
ouais. Mélenchon. Du Mélenchon pur jus. Une semaine avant, il était à la braderie de Lille. Et là non plus, il n'a pas fait dans la dentelle.
Non, non, je ne parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez.
Toujours dans la dentelle.
Ouais, toujours.
Il est en grande forme, non?
Non.
Mais si, il est en grande forme.
Oui. Non, il faut qu'il disparaisse. Je sais pas, mettez-lui un contrat, appelez la mafia, quelque chose comme, virez-le.
Je pense que dans ses proches, il y en a beaucoup, beaucoup qui souhaitent qu'il parte un petit peu, vu les dernières déclarations de la semaine que vous connaissez tous. Non, il semble très très fatigué, ce monsieur.
Bouffer de la reine, il aurait pu dire bouffer des bouchées à la reine.
Ah, oui. Alors, justement, sur la France insoumise, ce qui s'est passé donc dernièrement, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur Adrien Quatennens?
Ah, le paillasson.
Oh mais c'est sympa.
J'ai jamais pu l'encadrer, celui-là. C'est pas possible. C'est encore une caricature. Bah, je lisais un dessin humoristique, je crois que c'était dans Charlie Hebdo. C'était une femme qui disait « Je l'ai laissé me frapper parce que je savais qu'il était de gauche. » C'est ouais. Tout ce que j'ai à dire.
Vous avez suivi cette histoire avec Adrien Quatennens, donc, qui s'est... Enfin, qui a été, qui a déclaré hein, avoir effectivement levé la main sur son épouse, et donc la France insoumise qui a volé à son secours, mais d'une manière très maladroite, vraiment maladroite, avec des mots importants qui étaient employés et qui pouvaient avoir plusieurs sens. Et je me suis tourné vers une personnalité donc journalistique qui s'appelle Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, lui, sa spécialité, c'est d'analyser les textes politiques, les mots employés, les éléments de langage, la rhétorique. Et je vous propose d'écouter donc l'analyse qu'il a faite sur ces fameux tweets donc, de la France insoumise, et notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon au sujet de cette affaire Quatennens.
Et l'une des premières réactions est venue de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.
Adrien Quatennens a pris une décision juste et sage. Il a pris une décision qui est une décision courageuse. Nous avons pris une décision qui, je crois, est un signal qui est important.
Plutôt que de condamner les actes d'Adrien Quatennens, Mathilde Panot prend surtout le temps de saluer sa mise en retrait du mouvement. Et quand on lui demande s'il s'agit d'un retrait définitif, là, sa réponse est surprenante.
Nous, qui sommes attachés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, eh bien, est un homme qui est violent à vie, que ça serait naturel.
Voilà, hein, ce n'est pas parce qu'un homme a commis une fois des violences qu'il sera violent à vie. Bon, bah ça, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est hors sujet. Hein. Qu'Adrien Quatennens soit ou non un homme intrinsèquement violent, ça n'est bien sûr pas le problème. Le problème, c'est de déterminer s'il peut encore représenter la France insoumise et au-delà, représenter le peuple français après avoir reconnu des faits de violence. La question ne se pose pas du tout en termes de récidive, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là, mais en termes de responsabilité et d'exemplarité, les deux points précisément que Mathilde Panot esquive volontairement et encore... Ça, c'était avant la réponse, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, dont on a parlé tout à l'heure, dimanche, sur Twitter. Il écrit ceci.
La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection.
Bon, là, tout de même, c'est compliqué. Là, vraiment, c'est compliqué. Dès la première phrase, il n'y a qu'à regarder quels sont les sujets du verbe. Hein. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux. Voilà, quels seraient, d'après Jean-Luc Mélenchon, les responsables de tout ce pataquès et pas l'effet de violence d'un de ses lieutenants quant à la suite du tweet, il suffit de se pencher sur le lexique utilisé pour parler d'Adrien Quatennens. Dignité, courage, confiance, affection, une brochette de termes mélioratifs. En revanche, pas un mot pour qualifier Céline Quatennens. La victime est grammaticalement invisibilisée du tweet de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, cette déclaration lui a valu un déferlement de critiques. 3 heures plus tard, Il publie donc un correctif.
Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
Voilà, et donc je crois que c'est encore pire. Ouais. Quand on regarde le lexique utilisé pour qualifier Adrien Quatennens, on trouve une nouvelle grappe de termes mélioratifs. Affection, assume, c'est bien. En revanche, Jean-Luc Mélenchon se contente de n'être pas indifférent au sort de Céline Quatennens. Alors ça, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça une litote. Plutôt que d'affirmer une chose, on infirme son contraire. Il y a un exemple connu, c'est le fameux « va, je ne te hais point ». Que dit Chimène dans le Cid à la place de « je t'aime », ici c'est exactement pareil, « je ne suis pas indifférent » à la place de, à la place d'on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant. Le parallèle avec la déclaration d'amour du Cid, je crois, nous dit quelque chose, c'est un bon exemple. La litote, c'est la figure qui permet de faire comprendre ce que l'on n'ose pas dire, ou ce qu'on ne peut pas dire, ou ce qu'on ne sait pas dire. La litote, c'est un remède à la timidité. Et dans le cas présent, c'est précisément ce qui pose problème. Jean-Luc Mélenchon ne sait pas dire ou ne veut pas dire clairement son soutien à une femme victime de violences conjugales, alors que dans le même temps, il déborde d'affection à l'endroit de celui qui a avoué l'avoir agressé. C'était pourtant, je crois, le sujet sur lequel on attendait un peu mieux de la part de la France insoumise que de la timidité.
Eh oui. C'est terrible, hein. Cette analyse est terrible parce que c'était le cheval de bataille, effectivement, de la France insoumise, les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à ça. Ils sont incapables de pouvoir prendre une vraie position. Ils
d'autant
sont incapables
que,
de le dire.
D'autant plus que le monsieur, qui est un petit peu incriminé, mais qui a avoué son crime, entre guillemets, bien sûr, avait fait des déclarations, était chef de file, il y a à peu près 2-3 ans, en disant, dans des cas précis comme ceci, l'exemplarité et compagnie,
exact.
Il avait dit, il faut déposer des mains courantes. Il faut déposer mains courantes. Boum! Manque de peau, il en a une contre lui. C'est
là, il faut
c'est
dire
l'arroseur
que,
arrosé, là.
Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon est bien emmerdé, puisque c'était son successeur, normalement, hein, Adrien Quatennens.
Ça sera Fabien Roussel.
Oh, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, qui pour prendre la suite après Jean-Luc Mélenchon chez LFI? Vous voyez qui? Vous voyez quelqu'un?
Non, en ce moment, pas grand monde. Je sais pas s'il y en a un qui veut ou pas, mais il n'y a pas grand monde au portillon.
La tronche à Bompard, je trouve qu'elle irait bien. Je trouve,
ah oui.
Ça a de la drôle de tête, oui. De Bompard. Oui.
D'ailleurs, il dit rien actuellement. T'as remarqué ? C'est bien.
Il est bien sournois.
Il est doué, là. Ouais,
je le vois bien, celui-là.
Ouais. Tapis dans l'ombre et tout.
Ouais. En tout cas, on est arrivé, mine de rien, au terme de cette première émission qui relance le Coq à l'âne dans sa nouvelle version. Une version que vous retrouverez donc tous les mois sur alpe1.com. Nos invités aujourd'hui, donc Freddy Voiron, merci Freddy.
Merci à vous.
Florian Vine, merci.
Merci.
Un dernier petit mot vite fait avant de se quitter. Qu'est-ce que vous espérez le plus rapidement possible là aujourd'hui?
Une déclaration de paix et un retrait des troupes de la Russie.
Pareil.
Pareil, avec un peu d'espoir.
Oui, quand même, hein, parce que là on voit que les Russes commencent à... Google a publié des chiffres il y a 2 jours en disant que la plus grosse recherche qu'il y avait eu le lendemain où il a appelé les 300 000...
Les 300 000 volontaires.
C'était des recherches sur... La première recherche était comment se casser le bras et la deuxième recherche était comment se casser le pied. Donc c'est dire la motivation...
Et il y avait une troisième recherche, c'est comment se casser d'ici.
Comment se casser d'ici.
Et d'ailleurs, hier, ils ont l'ambassadeur de Russie en France a dit non, il ne faut pas exagérer. Ils sont quelques-uns à vouloir partir. Et tout, non.
Et von der Leyen, pour revenir sur ce que tu as dit au début, a dit qu'elle l'Allemagne allait récupérer,
accueillir
tous les déserteurs russes. Ils étaient les bienvenus.
Très
mais on sent quand même, malgré l'opacité qu'il y a là-bas, on sent quand même qu'il y a un vent qui commence un peu à tourner. On sent, parce que pour que ça arrive jusqu'à nous, c'est qu'il doit vraiment se passer quelque chose à l'intérieur. Bon, messieurs, merci. Bon courage pour la suite.
Merci.
Philippe, merci.
Merci
Jean-Paul, merci. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro du Coq à l'âne, le mois prochain déjà. Et je pense qu'on se retrouvera, on est donc octobre, novembre, je pense qu'on se retrouvera en décembre pour un prochain numéro. Ici, en direct de Briançon. Passez une belle journée, à très bientôt pour le Coq à l'âne podcast.